Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
On va faire comme les quotidiens, hein. On va commencer par parler du Tour de France qui a connu son épilogue hier sur les Champs-Élysées, mon cher Blaise, avec une étape absolument exceptionnelle. On a l'habitude d'avoir, je dirais, une espèce de petite kermesse et de défilé en règle générale. Et hier, c'était une véritable étape avec un suspense haletant jusqu'au dernier centimètre.
On avait quand même eu l'année dernière une belle étape aussi sur la butte Montmartre avec une très belle performance de notre belge Wout van Aert quand même, hein, il faut le souligner. Mais c'est vrai, hein, hier 89 km au lieu de 137 parce que évidemment les feux qui ravagent la France n'ont pas permis aux cyclistes de s'élancer de là où ils devaient partir. Que dire, Didier? Tadej Pogacar une cinquième fois, un cinquième Tour de France pour le Slovène, écrasante facilité sur ce Tour de France. On l'a vu notamment dans les deux montées de l'Alpe d'Huez où Richard Carapaz lui a donné un peu de fil à retordre, mais pas énormément non plus. Cinquième Tour de France d'affilée. Une deuxième place pour notre Belge Remco Evenepoel, le premier Belge à monter sur le podium depuis 1981, figurez-vous, Didier.
Absolument.
Donc ça nous fait vraiment plaisir. On se posait la question, hein, y avait beaucoup de personnes qui se posaient la question avant ce Tour de France de savoir si Remco était capable d'assumer dans les grands tours. Eh bien il l'a fait sur le Tour de France, deuxième, et comme disait le commentateur national Rodrigo Benkens, le premier du reste.
Le premier du reste, tout à fait, puisque Pogacar est sur dans sa galaxie, sur sa planète, tout seul. Mais Remco a extrêmement bien évolué, parce que les gens disaient c'est pas un homme qui peut gagner des tours, il peut gagner des classiques, c'est pas un grimpeur, et il a fait taire tous ses détracteurs déjà en perdant cet hiver 4 kilos à force d'un régime drastique, et force est de constater qu'il a suivi toujours les meilleurs. Il était dans la roue de Pogacar, toujours à son rythme, parce que Pogacar a une explosivité absolument exceptionnelle que Remco n'a pas forcément, mais lui il y va au train, et chaque fois il a terminé dans les places d'honneur sur les grandes étapes alpestres. Il y avait les trois derniers jours étaient tout à fait inédits dans ce Tour de France, avec les trois étapes les plus dures qui étaient enchaînées juste à la veille d'aller à Paris, et chacun croyait que Remco allait s'écrouler. Et bien que nenni, il a terminé, comme vous le dites, best of the rest.
C'était un tour destiné aux grimpeurs, hein, cette année. Franchement, c'était vraiment comme vous l'avez dit, hein, les trois dernières étapes principales dans les Alpes étaient dantesques. C'était vraiment, et on a entendu beaucoup de coureurs, hein, qui ne sont pas forcément des grands grimpeurs, qui se sont un peu plaints du tracé cette année. Rappelons tout de même qu'on a perdu sur chute et sur blessure sur Jonas Vingegaard qui est le principal challenger, adversaire de Tadej Pogacar.
En tout cas en montagne.
En tout cas en montagne, c'est ça. Ils doivent faire le même poids à peu près tous les deux jours. Mais ça a sûrement enlevé au spectacle, même si moi perso devant ma télé, je me disais que personne pouvait inquiéter Tadej Pogacar, hein, vraiment. Il était sur une moto, les autres étaient sur un tricycle, quoi.
Faut pas dire ça, parce que depuis Lance Armstrong et les suspicions de petits moteurs électriques, il n'en est rien pour Tadej Pogacar, qui, moi, ce qui me sidère chez ces cyclistes, je vous avoue, ils enchaînent quatre cols hors catégorie, et puis ils arrivent à l'arrivée. Bon, d'abord ils récupèrent un peu, et puis on les voit repédaler, et puis
ils étaient très fatigués hier quand même, hein.
Oui, mais après le deuxième Alpe d'Huez, Tadej Pogacar souriant, détendu, tout à fait lucide, c'est assez étonnant, et ça compte traste un petit peu avec l'arrivée hier. Je le disais, c'est passé à quelques centimètres près, même si Wout van Aert avait créé l'exploit en décrochant Pogacar himself l'an dernier sur la butte Montmartre. Eh bien, hier, Pogacar et le vainqueur du jour, et Mathieu oui, Van Der Poel, voilà, se sont échappés dans la dernière. Il y avait trois ascensions de la butte Montmartre. Ils ont pédalé, mais ils ont été au bout d'eux-mêmes. Et ils ont été rattrapés à même pas 200 mètres de la ligne. Pogacar avait fait un coup de panache exceptionnel. Il avait envie de gagner en jaune sur les Champs-Élysées. Il a réalisé que ce ne serait pas possible parce que sprinter, il n'est pas vraiment. Et Mathieu Van Der Poel a été au bout de lui-même. Il a mis d'ailleurs 4 à 5 minutes pour récupérer. Et quoi qu'il arrive, l'équipe Alpecin de Seninck avait absolument tout mis en œuvre pour gagner cette étape puisqu'ils font 1 et 2 avec notre Belge Jasper Philipsen qui finit second en levant le pied pour laisser Mathieu Van Der Poel gagner, lui qui méritait largement cette victoire.
Bon, ça... on parle foot maintenant ?
Ah, non, si, je sais que ça c'est votre terrain de jeu favori. Alors, quoi de neuf sous le soleil ?
Bah, Marc Van Bommel, Didier, ah, quand même. Voilà. Le nouveau sélectionneur fédéral, hein, l'ancien international hollandais, qui a notamment évolué au FC Barcelone, qui est champion en tant qu'entraîneur, et vainqueur de la Coupe de Belgique à la tête de l'Antwerp, qui remplace donc, Rudy Garcia, un contrat jusqu'au prochain Euro, hein. Donc on vise pas encore la Coupe du Monde en 2030. On vise le prochain Euro qui aura lieu, en Allemagne,
Avec sa mission principale,
en Irlande,
ou je sais plus, un des deux, enfin bref, peu importe, c'est dans les îles britanniques, quoi qu'il arrive,
voilà.
Et sa première mission, son to-do list, c'est d'abord de qualifier les Belges en Ligue des Nations, eux qui doivent rencontrer dans leur groupe à la fois la France et l'Italie.
Ouais, la France, l'Italie et la Turquie, ça sera pas une mince affaire, même si la Turquie est sortie prématurément du Mondial 2026, ça reste un adversaire que la Belgique a souvent du mal à gérer, la Turquie, et c'est vrai, hein, France-Italie. Alors on va peut-être y revenir parce qu'il nous restera du temps. La France, France-Belgique, ce sera sûrement le premier match de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, mais on va peut-être y revenir. Est-ce que vous comprenez, vous Didier, que Rudy Garcia se soit fait éjecter de la Fédé belge?
Alors je vous avoue qu'un petit peu comme tout le monde au départ, j'étais un petit peu surpris, et puis enfin en tout cas comme beaucoup, et puis au final quand on lit ce qu'on lit et qu'on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense, comme disait Coluche. Il n'avait plus la confiance du vestiaire, des communications un peu difficiles, des rapports tendus avec Vincent Manhart qui est quand même le directeur technique absolu de la fédération belge. Et puis il faut bien l'avouer qu'en termes de football proposé, c'était pas
on
non plus...
On s'est pas éclaté. Donc...
Non, franchement pas. À son crédit, bien sûr, le résultat, puisqu'il a atteint l'objectif fixé par l'Union belge, c'était d'atteindre les huitièmes de finale, voire même les quarts. Il a atteint les quarts de finale. Avec des miracles.
Honnêtement, j'ai vraiment pas été ravi par ce qu'il a fait sur le terrain et par ce que les Diables ont proposé. Mais au contraire de Domenico Tedesco, qui était l'ancien sélectionneur fédéral, je trouve qu'il a bien réussi à faire cette transition entre la fameuse génération dorée et la nouvelle génération. On pense ce qu'on veut du personnage, et vous le savez Didier, je l'estime pas énormément Rudy Garcia, moi, mais je trouve enfin, il a quand même mis Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne sur le banc.
Ouais.
C'est quelque chose qu'il faut faire.
Et
Jérémy Doku aussi, mais ça, c'est différent. Ça, Jérémy Doku était malade. Jérémy Doku avait la tête à autre chose. Mais Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku étaient en forme. Ils auraient pu jouer. Il les a mis sur le banc et moi je trouve ça remarquable. On les adore. Ce sont des stars, ce sont des très grands joueurs de football, mais ils n'ont plus cette capacité à changer les matchs ou alors en sortie de banc. Rudy Garcia l'a fait et ça c'est quelque chose qu'on peut lui apporter. Il a mis Brandon McCullough titulaire en Coupe du Monde, ce qui s'est révélé une très bonne surprise. Il a quand même fait des choix.
Il a fait des choix, après...
Des choix vestimentaires, par contre, qui étaient très douteux. Hein,
mais c'est vrai, mais ça nous a porté chance quand même, avec le maillot Magritte, hein, le fameux maillot Magritte. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Lukaku sur le banc, c'était prévu d'entrer, puisque c'était le joker de luxe, il n'avait pas assez de matchs dans les jambes. De Bruyne était un petit peu à la ramasse, malgré qu'il ait fait un tas d'efforts, qu'il a aussi été longuement blessé cette saison. saison, mais il avait quand même terminé la saison avec un peu de rythme dans les jambes. Par contre, ce que moi je comprends moins et qui est quand même de sa responsabilité à Rudy Garcia, c'est d'avoir emmené un Zino de Bast avec lui qui n'a pas joué une minute et que tout le monde savait qu'il ne jouerait pas une minute sauf Rudy Garcia.
Et je pense qu'on aura on verra un peu plus clair sur cette histoire. Apparemment le club de Zino de Bast, à savoir le Sporting Lisbonne, ne voulait pas trop qu'il joue. Il y a un flou sur cette histoire, mais c'est
coupe
vrai.
Du monde, c'est Coupe du Monde. Oui. Hein,
Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde. Je suis d'accord avec
vous. Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde. Bien, ben, au niveau foot, encore une autre info.
Bah, je le disais, Didier, quand même, hein, le retour du Messi.
pas Lionel, hein, pour non, le
avec
coup.
Avec un. Zinedine Zidane qui va très probablement assurer sa.
Mardi. C'est officiel.
Demain. Ouais. Non, c'est pas encore officiel. Ce sera officialisé demain à partir de 11h. Conférence de presse convoquée par Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football. On se doute tous que ce sera Zinedine Zidane. Enfin, c'est pas encore officiel. Mais quand même, c'est le retour de Zidane sur le banc français avec ce maillot. On sait tous ce qu'il représente pour la France et pour le monde entier. Ce sera donc 20 ans plus tard, hein. 20 ans plus tard. Le 9 juillet, c'était le 9 juillet 2006 que Zinedine Zidane faisait ses adieux à l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. On se rappelle tous tristement sur un coup de boule pas forcément adéquat. Et il sera de retour.
Pas du tout, même.
Pas du tout adéquat. C'est drôle, j'écoutais un podcast et c'est dingue à quel point il a quand même été pardonné par l'opinion publique malgré ce geste. C'est quand même une très belle histoire.
Hein. Bah, c'est une belle
Zizou,
histoire.
Zizou de retour sur le banc et puis Zizou de retour tout simplement. Hein, son dernier match sur un banc, c'était avec le Real Madrid pendant la période du Covid. Ah, figurez-vous, donc ça fait plus de 4 ans maintenant.
Ouais, mais c'est pas qu'il trouvait pas de club, il avait pas envie.
On connaît le tempérament du personnage, il est plutôt réservé et il ne voulait pas être sur le devant de la scène, et on le comprend très bien, mais là il sera de retour sur le devant de la scène. On attend évidemment ses choix et ce qu'il va faire de cette équipe de France de football.
La dernière fois qu'on l'a vu, c'était aux Jeux Olympiques, il a allumé la flamme, je crois.
Exactement, il avait fait partie de la vidéo, hein. Il n'était pas directement présent, mais il avait allumé la flamme avec Jamel Debbouze.
Exact.
Les deux amis. Oui, c'est vrai. ils sont très amis les deux. Hein.
Et
ils représentent tous les deux cette fameuse France Black Blanc Beurre qui avait gagné la Coupe du Monde 1998, à l'époque aussi où Jamel Debbouze émergeait dans l'humour français, sur la scène française. Et tous les deux, je pense qu'on peut dire que ce sont des icônes. Hein,
bah, clairement. On va terminer ce Judaïka Sport d'abord en disant que ZZ remplace Dédé, ça c'est au niveau de l'équipe de France. Et puis hier, Lando Norris, il a gagné sur le tourniquet de l'Hungaroring à Budapest, le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 devant Max Verstappen. Alors Max Verstappen, c'était un mystère. Il se plaint sans arrêt d'avoir une voiture qui est une vraie charrette et il termine toujours sur le podium ou pas loin. Donc comme quoi.
C'est vrai qu'elle a l'air d'être compliquée cette Red Bull. Hein.
Ouais,
mais il arrive à s'en sortir. C'était pas très intéressant comme course quand même.
Non,
hier,
enfin c'était surtout stratégique. Max Verstappen nous a gratifié d'un dépassement à la Verstappen. Ouais. Et franchement
sur Lewis Hamilton, c'était assez impressionnant.
Ouais, ouais. Lewis Hamilton qui s'est vu de nouveau infliger deux pénalités, une sur la grille de 3 places et une pour excès de vitesse dans les stands.
Il n'était pas très content. Hein.
Non, je ne pense pas. Donc le podium final de ce Grand Prix de Hongrie, eh bien, figurez-vous que le grand vainqueur du jour, c'est Kimi Antonelli, puisqu'il finit troisième et donc il a pris des points en plus que tous ses adversaires au championnat du monde, notamment son dauphin actuel, c'est-à-dire Lewis Hamilton, qui finit lui cinquième. Et voilà. Voilà pour la Formule 1. Il est 7h59. Merci Blaise pour tout cela. Pub. Et puis ensuite, l'info, bien sûr.